Vous êtes à l'écoute des mots avec Bertrand Coudreau.
Bonjour à tous. Il existe trois catégories d'éditeurs, enfin ça c'est un avis personnel. Ceux qu'on trouve à tous les rayons de librairie, les Gallimard, Grasset, Le Seuil et autres Albin Michel. Il y a ensuite les éditeurs régionaux, aux ambitions nettement plus modestes, mais qui ont tout de même pignon sur rue, comme Libra Diffusio, par exemple, chez nous dans la Sarthe. Et puis il y a ceux plus discrets, quoique le mot soit pas très bon, qui ne publient que quelques livres dans l'année, mais qui le font avec leur tripes, par conviction ou pour défendre une cause. Les éditions Adabam, spécialisées dans la jeunesse et basées à Noyen-sur-Sarthe, entrent dans cette catégorie. Mais avec cette différence, on va le voir tout de suite, qu'elles ont une ambition bien plus large que les seules frontières sartoises. L'accès aux livres pour tous, quelle que soit la situation des jeunes lecteurs, voilà le thème de notre mission aujourd'hui. Donc avec nous Florence Briet, bonjour Florence Briet.
Bonjour.
Qui est la patronne, entre guillemets, des éditions Adabam. Alors, on va commencer, comme c'est la première fois que je vous rencontre à la radio, on va d'abord dire qui vous êtes, d'où vous venez.
Alors, je suis donc Florence Briet, je viens de Noyen-sur-Sarthe, où est installée ma petite entreprise. Donc, j'ai créé en décembre 2008 les éditions Adabam, une maison d'édition spécialisée en jeunesse, d'abord de la littérature normale, classique, et puis en 2015, sous la pression un peu des enseignants que je rencontrais, je me suis spécialisée dans les livres adaptés pour les enfants dyslexiques. Sachant qu'aujourd'hui, je ne parle pas trop de dyslexie parce que tout ce que l'on met en place pour les enfants qui ont des troubles dyslexiques, en réalité, ça fonctionne pour tout le monde. Donc, je parle plus de livres qui vont faciliter les apprentissages, que ce soit des enfants donc, avec troubles dyslexiques ou des primo-lecteurs. Alors, on a aussi des allophones, on a des adultes en situation d'illettrisme. Voilà, le public est très, très large en réalité.
Oui, donc, c'est ça. Moi, j'avais noté comme ça l'autisme, les problèmes de surdité, par exemple, des handicaps qui sont plus à des degrés divers, évidemment. Est-ce que toutes ces catégories-là sont concernées ou c'est plus spécifique
alors,
à une catégorie?
Tout va dépendre du lecteur, en réalité. Alors, surdité, pas trop. Là, il y a des maisons d'édition qui sont spécialisées.
Oui, c'est quand même quelque chose.
Alors, sachant que ces enfants qui ont une déficience auditive ont beaucoup de difficultés à apprendre à lire puisqu'ils n'entendent pas le son. Donc c'est un autre problème sur lequel je ne me suis pas du tout encore investie. L'autisme, oui, ça dépend aussi de la force du trouble autistique. On a de la déficience intellectuelle également. Mais le livre adapté tel qu'il est conçu, tout va dépendre du lecteur. Il faut qu'il adhère aux techniques qu'on va proposer, aux solutions. Certains vont tout de suite avoir le coup de cœur et comprendre comment ça fonctionne et ça va les aider à automatiser la lecture. Pour d'autres, ce sera d'autres solutions qu'il faudra trouver, mais ça c'est aussi une partie de notre travail qui est extrêmement intéressant, d'aller chercher d'autres solutions pour soutenir ces jeunes en difficulté, parce que la lecture, on vit dans un monde de lecture, on lit tout le temps, dans la rue, il y a des affiches partout. Même sur nos écrans, voilà, exactement, mais c'est de l'affiche, c'est un mode d'emploi, c'est une recette de cuisine. J'avais travaillé avec un IME où on a réussi à mettre trois enfants sur le chemin de la lecture, et l'éducatrice spécialisée me disait: mais grâce à cette technique, ces trois enfants-là, ces trois jeunes, ce n'est pas des enfants, c'est des ados, sont maintenant autonomes pour prendre le tram, par exemple. Ils peuvent lire les stations, savoir où ils sont. Donc, on ne se rend pas compte de l'intérêt, de l'importance d'avoir une maîtrise de la lecture et de comprendre ce qu'on lit.
L'autonomie,
extrêmement important.
Pour tout individu.
Et c'est un public fascinant. Enfin, moi, je prends beaucoup de plaisir pour travailler pour ces jeunes-là.
Ah, c'est génial quand on fait de l'édition parce qu'on aime les livres. Et en plus, on aide des gens à améliorer leur quotidien, leur vie. C'est génial.
C'est génial et c'est ce qui est. Là, je peux pas raconter tous les exemples que j'ai en tête, mais c'est vrai.
Allez,
quand
un,
on a
au moins.
Alors, je vais vous parler d'un petit garçon, Côme. Côme, il avait 7 ans. Ses parents sont venus me voir. C'était sur un salon du livre Côme refusait la lecture. C'est un enfant qui avait une très bonne oralité. Je pense qu'il avait un haut potentiel derrière parce qu'il y a beaucoup d'enfants dyslexiques avec des hauts potentiels. Refusait entièrement le livre et la maman regardait la technique qu'il y a dans mes bouquins. Puis elle me dit, je vais quand même le prendre, même si Côme ne veut pas et tout ça. Donc, elle a acheté les livres. Et puis, au moment du déjeuner, moi, je m'apprêtais à partir pour rejoindre les autres auteurs et éditeurs pour aller déjeuner. Le papa vient me voir et il me dit, est-ce que je peux vous parler? Mais avec un visage très grave. Oh, je commence à stresser. stressée, je me dis « qu'est-ce qui se passe ?» Il me dit « regardez ». Et je vois la maman de Côme qui vient, qui s'approche de moi, mais en larmes, en pleurs. Alors là, je lui dis « qu'est-ce qui se passe ?» Et elle me dit, elle se tourne, et derrière elle, il y avait Côme. Et Côme avait le livre entre les mains ouvert et lisait en marchant dans les allées. Et Côme, voilà, il a accroché à la lecture. Et ça, c'est... Et là, c'est, on a réussi notre travail quand on arrive à...
Je suis pas sur Terre pour avoir rien.
Voilà, c'est ça. Je dis, c'est bon, ma journée est faite. Même si je propose et que je vends qu'un seul livre sur ce salon-là, journée est prête et faite parce que l'enfant, on l'a récupéré. Alors, des exemples, j'en ai plein comme
fait,
ça.
En fait, vous
quoi.
Êtes un éditeur humaniste.
Oui. Mais quand on travaille pour le livre adapté, on peut pas être dans une optique commerciale. Moi, j'ai un statut associatif, parce que c'est pas du tout le même. Pas du tout le même profil. Alors, j'ai aussi besoin de vendre des livres parce que c'est ma seule revenu. Mais c'est le revenu. Je n'ai pas d'aide. Je ne demande pas de subvention. On est autonome, totalement autonome. Donc, ce sont la vente de mes livres qui me permettent d'en créer d'autres. Donc, c'est quand même extrêmement important. Mais on a moins de contraintes que si j'étais une SARL. Donc, c'est vrai qu'on va passer beaucoup plus de temps peut-être sur le terrain, où on va être plus à l'écoute,
à réfléchir,
plus humain,
à parler avec d'autres.
Ouais. Puis je travaille avec des orthopédagogues, orthophonistes.
Et puis les enseignants, vous en parliez tout à l'heure, j'imagine.
C'est toute une équipe.
Ils ont des besoins à exprimer.
Exactement. Là, jeudi matin, je suis dans un collège à Sablé toute la matinée. Après, je déjeune avec les professeurs de français. On va mettre en place des formations, parce que ça, je fais aussi beaucoup de formations pour leur partager toutes les... À la base de ce travail que je propose, il y a quand même 2 ans de recherche. Donc on a
ça s'est pas fait comme ça.
Ça s'est pas fait comme
ça. Un matin,
ça.
En se levant.
Non, on peut pas parce que on n'a pas le droit d'être mauvais sur des livres.
C'est quasiment scientifique en fait. Il y a une vraie recherche derrière ça.
On a passé 2 ans avec 141 enfants sur lesquels on a travaillé. On a essayé de comprendre ce qui fonctionnait, ce qui fonctionnait pas, quelles solutions leur proposer. Et c'est comme ça qu'on a travaillé, pu appliquer toutes nos recherches dans nos livres. Mais entre les premières éditions de mes livres adaptés, donc vous voyez, j'ai commencé en 2015, les premiers livres adaptés sont sortis en mars 2017. Entre mars 2017 et aujourd'hui, avril 2024, les livres continuent d'évoluer parce qu'on continue de trouver...
Exactement. Avec des différences.
Exactement. Moi, je pratique ce qu'on appelle l'impression raisonnée. C'est-à-dire que je vais imprimer en quantité raisonnée. C'est-à-dire que j'imprime ce que je sais que je vais vendre. Je vais pas avoir mes livres pilons ou quoi que ce soit. On a une politique écologique extrêmement précise au sein des éditions Adabam. Ça nous permet aussi que quand on réimprime, par exemple, là, j'ai 2 livres en réimpression actuellement. On peut réajuster quand on a constaté des choses.
Les petites quantités permettent ça.
Voilà, exactement. Donc, on a des tirages entre 1000 et 1500 exemplaires par titre qui va nous permettre de tenir en moyenne 18 mois. Et ça va nous permettre de réajuster après.
Continuer à travailler dessus
exactement.
Pendant ce temps-là.
Ouais. Mais c'est passionnant. Mais à la base, c'est de la recherche scientifique.
L-A-E dans la T-I-T-I-A. L-A-E dans la T-I-T-I-A. Sur ma Remington portative, j'ai écrit ton nom Laetitia. L-A-E dans la T-I-T-I-A. Laetitia, les jours qui se suivent, hélas, ne se ressemblent pas. L-A-E dans la T-I-T-I-A. C'est ma douleur que je cultive en frappant ces 8 lettres-là. L-A-E dans la T-I-T-I-A. C'est une fleur bien maladive, je la touche du bout des doigts. L-A-E dans la T-I-T-I-A.
Vous, là, ce que vous me disiez tout à l'heure hors antenne, c'est que le même livre, vous pouvez l'éditer là, j'en ai un sous les yeux, un chaton nommé Clochette, par exemple, voilà un exemple, où, en fait, j'ai 2 livres sous les yeux, les auditeurs ne peuvent pas le voir, mais, en fait, c'est la même histoire, la même écriture, etc., mais ils sont faits différemment. Pour 2 types de lecteurs différents. Le même livre.
Alors, exactement.
Racontez un petit peu comment ça se fait.
Là, c'est ma petite fierté, parce que je suis quand même la seule maison d'édition en France à proposer ce qu'on appelle la double édition.
Donc, écoutez bien, vous avez...
Et je revendique mon côté sartois, parce que malheureusement, c'est parfois un handicap d'être dans la campagne. Alors, la Sarthe, c'est souvent un département que les gens ne savent pas placer sur une carte de France. Quand on dit Le Mans, Il y a les 24 heures du Mans.
Là, ça va à peu près mieux.
Mais alors, c'est, alors donc on est un petit peu, nous, des extraterrestres. Alors, c'est quelque chose que je revendique beaucoup, ce côté rural sartois, parce que la culture, il y en a partout. Hein. Et puis, donc, je suis donc la seule maison d'édition à proposer ça. Donc, ce que je fais, en réalité, c'est que chaque livre sont proposés en double édition. Il y a une édition, ce qu'on appelle le livre accessible, avec une mise en page qui va être aérée, qui va être plus confortable et qui va moins stresser l'enfant parce qu'il y aura
avec
moins de texte. Voilà, il y aura moins de texte à lire sur la page, donc ça lui fait moins peur. Donc là, par exemple, on a les lettres muettes qui sont grisées. Alors, je peux ouvrir une petite parenthèse. Tiens, je vais vous donner une information. Quand on a mené nos études, on s'est rendu compte qu'en grisant les lettres muettes, donc la lettre muette, c'est la lettre qui s'écrit mais qui ne se prononce pas. Nous, voilà, le S ne se prononce pas. Donc le S va être grisé. Eh bien, on s'est rendu compte, alors il y avait deux types de lecteurs. Il y a l'enfant dyslexique, il l'écarte tout de suite, et lui, c'est ouf, d'instinct. Une lettre en moins à lire, c'est l'aide la plus utile.
C'est automatique.
Ah oui, les 141 testeurs nous ont dit à quel point la signalisation des lettres muettes, c'était extraordinaire pour eux, parce qu'ils l'enlèvent complètement. Voilà, ça leur fait une lettre en moins à associer, donc pour eux, c'est très précieux. Mais pour les enfants qui n'ont pas de troubles, ce qu'on appelle les normolecteurs, eh bien, comme la lettre n'est pas dans la même couleur, ils vont la voir. Et à force de répéter le mot, ils vont photographier et mémoriser. Et indirectement, sans s'en rendre compte, on a trouvé là une solution.
Ils mémorisent l'orthographe
exactement.
Du mot. On ne prononce pas le S, mais attention de bien l'écrire.
Exactement. Et on avait fait le test sur le mot « étang » avec le G, qui n'est pas évident.
Pareil.
Dans un texte, on met plusieurs fois le mot « étang ». Quelques jours après, on demande aux jeunes d'orthographier. Ils nous ont tous mis le G à « étang ». Donc, c'est quelque chose d'extrêmement facile et de simple à
donc,
faire.
Donc, l'œil est très important dans cette affaire-là.
Bien sûr. L'œil photographie et renvoie l'image au cerveau qui interprète. Voilà.
Et donc puis qui enregistre.
Et qui enregistre, et qui va mettre dans les bonnes cases.
Ça y est, c'est voilà. À qui je mets un G au bout.
Exactement.
Moi, très longtemps, je mettais un T à artisan, vous voyez, par exemple. Ouais. Je ne sais pas pourquoi.
Mais il y a des mots comme ça. Moi, je sais que malgré, je mettais un S, et c'est pareil, je n'arrivais pas à ne pas mettre de S. Voilà, bon. Ouais. Donc, si j'avais eu la lettre muette, je me serais rendu compte
que... On en guérit de ces maladies-là, mais enfin bon.
mais bon, on se corrige, l'orthographe tout le temps. Hein.
Ouais.
Donc, vous voyez, c'est des petites choses comme ça qu'on s'est rendu compte. Et c'est pour ça que dans mes livres, même mes romans ados, je laisse les lettres muettes en gris. Ça gêne pas le lecteur classique, mais ça va aider à photographier et à mémoriser les particularités orthographiques des mots de notre langue française. Donc là, je ferme la petite parenthèse. Mais, voilà.
Mais
donc,
pour revenir à notre livre, Un chaton nommé Clochette, donc vous dites qu'en fait, tous les livres, vous le faites comme ça. Alors, il y a une caractéristique, c'est que chaque mot... D'abord, il y a des espaces assez prononcés entre chaque mot, chaque verbe, voilà. Et en plus, il y a des petites vagues... En dessous, alors c'est fait pour quoi ça?
Alors c'est ce qu'on appelle ça peut être des petits vagues, des arcs, plus souvent on dit des ponts phoniques. En été, c'est du découpage syllabique. Alors syllabique, moi je parle plus de découpage phonique, mais notre langue étant syllabique, c'est vrai que ça se rapproche quand même à 90% de la syllabe. Donc on va en réalité placer des petites vagues, des petits ponts sous les syllabes de manière à aider l'enfant à fluidifier sa lecture. C'est-à-dire quand il voit un groupe de lettres, il n'a plus besoin de réfléchir à la manière dont il doit couper les mots en son pour pouvoir en syllabes, pour les prononcer. Ça va se faire automatiquement puisque nous, on lui a déjà mâché ce travail-là. Alors, il y a deux objectifs. L'enfant lambda, ça va le rassurer et l'aider à automatiser. Donc, vous voyez, nos toutes premières lectures, notre collection qui s'appelle « À la conquête de la lecture », on a un énorme lectorat qui n'était pas prévu à la base, qui sont des enfants de grande section, qui sont déjà dans la lecture et qui sont en train d'automatiser. Et nous, à la base, on avait travaillé ces livres pour des enfants de 7-9 ans en difficulté de lecture. Et voyez, aujourd'hui, notre lectorat principal, ce sont des primo-lecteurs. Donc, c'est ça qui est assez inattendu. Et pour un enfant donc, qui a des troubles dyslexiques, ça va l'aider justement à découper. Il n'a plus cet effort à faire, donc il va pouvoir se concentrer sur autre chose, et notamment le son, la création du son.
Ces inversions qu'il faisait...
Ouais.
Peuvent disparaître.
Alors,
pas
ça,
forcément.
Non.
Alors, faut pas exagérer non plus.
Non, nous on est là en tant qu'éditeur. On apporte des outils qui vont aider l'enfant. Notre objectif, c'est de lui faire comprendre qu'il va être capable, de lui donner confiance.
Que ce soit plus confortable pour lui.
Exactement.
Et plus agréable.
Plus agréable et surtout qu'il arrive à comprendre qu'il est capable, qu'il va pouvoir le faire.
Ça, c'est, voilà, c'est parce que pour lui, c'est énorme.
Voilà, des enfants qui sont
dans son petit cerveau, ça.
En difficulté à l'école, difficulté scolaire, voilà. Donc il faut rassurer, il faut expliquer. Et puis, généralement, alors pour un enfant dyslexique, les ponts, on peut encore en avoir besoin jusqu'au collège. On nous les demande encore au niveau collège. Après, on peut pas. Enfin, moi, je me substitue pas auprès des rééducateurs. Enfin, les orthophonistes, orthopédagogues font un travail extraordinaire. Les enseignants font leur rôle d'enseignant. Moi, je n'apprends pas à lire. J'apporte des livres où le texte est déjà écrit. Donc, les sons, c'est à l'enseignant d'apprendre les sons. Moi, c'est pas mon rôle. Je suis pas éditrice scolaire.
C'est à la fois un livre et un outil.
Voilà, c'est un outil. Et souvent, on vient plus se chercher mes livres pour la technique qui est proposée, les aides, les solutions, que pour l'histoire, parce que voilà, donc faut quand même que les histoires soient drôles.
Bien sûr.
On travaille beaucoup sur l'humour parce que c'est des enfants qui sont souvent en difficulté, donc on essaye de les distraire. Mais on vient beaucoup chercher cette technique.
Ça doit être passionnant aussi pour les auteurs. Ça.
Alors j'ai peu d'auteurs. Alors les auteurs, c'est intéressant. Je travaille à la commande avec les auteurs, c'est-à-dire que les gens qui m'envoient des manuscrits libres comme ça, je prends rarement. En 15 ans, je n'ai même jamais pris, pour être honnête. Je vais plutôt chercher des auteurs et je vais les former. Donc là, on a une nouvelle collection qui arrive dans 10 jours. C'est un auteur qui n'avait pas l'habitude de travailler pour ce public-là, qui a accepté. Et donc, le premier livre, il y a eu énormément d'interventions de ma part sur le premier livre, parce qu'il faut qu'il comprenne, voilà. Et le deuxième qu'il m'a écrit dans la foulée, j'étais super contente parce qu'il avait bien pigé le truc et j'ai eu beaucoup moins d'interventions. Et c'est vrai que ce ne sont pas des livres où il faut infantiliser l'enfant. On va garder un vocabulaire classique, mais on va simplifier la construction des phrases. Et puis les histoires doivent être plus courtes. Voilà, il y a tout un codage qu'on est obligé d'appliquer. Donc je forme beaucoup. Ouais.
Ses aiguilles au soleil d'un volet qui bat, et ça respire tout au fond du vent. C'est un rideau qui court autour de ses mains. Tu pousses l'amour vers moi. J'aime bien les mots qui viennent tout bas. Mais est-ce que tu sais que je t'aime en bagaille? C'est comme
à l'écoute des mots sur Radio Alpa 107.3 FM Le Mans et radioalpa.com.
C'est un travail de longue haleine parce que je pense que depuis 2015, ça fait même pas encore 10 ans, pour que ça fasse, comment dirais-je, écho dans tous les établissements jusqu'au ministère de l'Éducation nationale et que la machine, la lourdeur administrative... se déclenche vraiment, il va se passer du temps avant qu'enfin un maximum d'enfants en profitent.
Ouais. Et là, vous soulevez un énorme problème de l'édition indépendante, c'est-à-dire que fabriquer des livres, c'est pas un problème, hein. C'est même très très facile. Enfin, pour nous, c'est notre métier, donc pour nous, c'est pas compliqué, bien évidemment. Mais
c'est la validation.
Alors, la validation, pas forcément la validation, parce que nous, maintenant, on a du recul, hein, on connaît les résultats de nos livres.
Je veux dire, par exemple, l'Éducation nationale, il faut qu'elle valide.
L'Éducation nationale, je les ai rencontrés. C'est pas qu'elle s'en fout, c'est que moi, je les ai rencontrés en janvier 2020, c'était avant le confinement. J'ai pu présenter le travail, l'étude. On y avait été avec, pour présenter l'étude. Et ils ont trouvé ça extraordinaire, formidable. Même au début, ils nous avaient dit ouais, on a à peine 10 minutes à vous accorder. Puis au final, ils sont restés 1h15. Ils ont écouté tout. Ils étaient vraiment très
c'est
contents.
C'est bon signe.
Et voilà, c'était bon signe. Mais alors, le problème, un, c'est qu'il ne faut pas que ça leur coûte d'argent. Donc voilà.
Oui, déjà, oui.
Deux, ils ne veulent pas nous aider parce que s'ils nous aident, nous, il faut qu'ils aident les autres. Donc voilà. Donc après.
Oui, ils ne veulent pas mettre le doigt dans l'engrenage.
Voilà. Et puis, le problème, c'est que ça change tout le temps de ministre. Donc à chaque fois, il faut recommencer.
C'est compliqué, surtout en ce moment.
Voilà. Donc moi, j'ai un petit peu laissé tomber. On a privilégié ce qui est beaucoup plus long, mais c'est aussi propre à l'édition indépendante, c'est le travail de terrain. Donc on va frapper les portes au niveau des écoles. Je rencontre beaucoup d'écoles, d'enseignants dans les salons du livre.
Vous faites des interventions même dans l'école ?
Oui, je fais de la formation, énormément de formation. J'en ai fait à Sablé, j'en ai fait au Mans. Alors principalement, malheureusement, des écoles privées, parce que la direction académique, qui était très partante au début pour lancer une étude dans la Sarthe, et puis du jour au lendemain, tout a disparu, personne ne voulait plus rien faire, donc on a laissé tomber... Ça, je le regrette parce que c'était, je pense, quelque chose d'extrêmement important pour
ces enfants. C'est vraiment un travail de fourmi. Hein.
Ouais, mais c'est,
mais
c'est
de patience,
énormément
de
d'énergie.
Persévérance.
Ouais, c'est de l'énergie et c'est frustrant parce que moi, ce qui me frustre toujours, c'est que j'ai entre les mains des outils incroyables pour aider les enfants, mais que je n'arrive pas à ouvrir les portes parce que, notamment, les écoles publiques, il faut rentrer par la direction académique qui ne m'ouvre pas les portes. Donc là, par exemple, jeudi prochain, je rentre dans un établissement public, mais parce que la proviseur est extraordinaire. C'est un collège REP, qu'elle a besoin d'aide. Donc elle m'a dit, banco, vous venez, vous faites ce que vous voulez. Les profs m'ont même proposé de venir assister à leurs cours pour voir comment sont les enfants, parce que je travaille beaucoup sur l'observation. Il faut beaucoup étudier le comportement aussi des enfants, voir comment ils agissent, ce qu'ils comprennent, ce qu'ils écoutent. On voit bien l'évolution, les gamins qui ne tiennent plus en place, qui coupent la parole, qui ont du mal à... Donc c'est très intéressant de les observer pour après trouver des solutions aussi. Ça
bon, donc vos livres sont constamment
en mouvement,
comme, en mouvement d'évolution comme ça. Malheureusement, on va bientôt être obligé d'arrêter. Hein. Mais qu'est-ce qu'il y a à dire hein. C'est énorme hein, sur
c'est
ce sujet-là.
Ouais.
Mais juste une question bassement d'un ignorant. Mmh. Adabam, qu'est-ce que ça veut dire Adabam?
Adabam, alors c'est le mélange des deux premières lettres des prénoms de mes enfants. Je voudrais juste avant qu'on se quitte parler quand même d'une association dont je suis vice-présidente et
membre du collectif les éditeurs
atypiques.
Atypiques, j'ai vu ça.
Ouais.
Alors
c'est
oui,
très
ça,
récent.
C'est intéressant que vous disiez.
Ouais, c'est très intéressant.
Qu'est-ce que vous faites tous ensemble?
Nous sommes regroupés. Nous sommes tous des éditeurs spécialisés dans le handicap. Donc il y a des maisons d'édition qui sont spécialisées dans le grand caractère, dans les livres en braille, livres tactiles.
Mais on disait Libra Diffusio tout à l'heure.
Voilà. Alors Libra Diffusio ne font pas partie de notre collectif.
Non, mais bon, ils font des livres.
Ils font des livres en grand caractère, mais ils respectent pas les codes en réalité.
Ok.
Les règles de base. Donc alors c'est extrêmement strict pour rentrer dans notre collectif. Il faut vraiment que les livres soient très pointus. On a une particularité, c'est qu'on travaille tous avec des chercheurs d'ailleurs. Pour finir, il y a des livres en pictogramme pour les enfants autistes, il y a des livres en bilingue français, langue des signes français pour les sourds et malentendants. Il y a des livres en FALC, c'est le facile à lire, à comprendre pour les déficients intellectuels. Donc on est 10 éditeurs et une association pour être précise. Et on travaille ensemble pour développer le livre adapté, pour faire connaître le livre adapté. Et notre objectif, c'est que bien sûr que chaque personne porteur d'un handicap sache qu'il y a des livres qui peuvent être adaptés à son handicap. Voilà, donc c'était...
Ouais, ça c'est très important effectivement de dire ça. Vous n'êtes pas toute seule.
Non.
Ça rayonne sur toute la France.
Exactement.
Et puis, comment on peut vous contacter si on a besoin?
Vous avez un site internet, bien évidemment. Donc pour trouver le site internet, dans n'importe quel moteur de recherche, vous tapez édition Adabam, c'est Adabam. Voilà.
Oui, quand même, le rappeler.
Voilà, parce que des fois on dit Abadam ou des choses comme ça, c'est Adabam, donc Adèle, bon là on mémorise.
Je l'avais écrit comme ça au départ.
Problème de dyslexie, je peux faire quelque chose pour vous. Donc c'est édition Adabam, à Noyens-sur-Sarthe.
J'ai vu 4 routes de Fercé, on veut vous écrire.
Ouais.
72 430 Noyens-sur-Sarthe.
Voilà. Je ne reçois pas à domicile, par contre.
Non, on est bien d'accord,
bien.
Hein, à préciser. Ouais. Hein,
c'est courrier.
Les gens, ils ne viennent pas
début,
sonner à votre
voilà.
porte pour dire « j'ai
de
un problème
façon,
avec mon gamin ».
De toute façon, la sonnette
ne
marche pas. Voilà, ça je ne fais pas.
Mais ils peuvent vous écrire, ils peuvent vous envoyer un mail.
Voilà, et quand on a des enfants, avec vraiment des cas particuliers, je vais parfois orienter vers des professionnels qui peuvent prendre en charge les enfants, parce que moi je suis pas j'ai pas les connaissances des orthophonistes, orthopédagogues, donc parfois je peux orienter vers des personnes qui ont les compétences.
Voilà. Eh ben écoutez, on est obligé d'arrêter là, mais c'est très intéressant hein,
merci.
Ce que vous faites là.
Merci beaucoup.
Donc ça méritait vraiment qu'on en parle. Ben, merci à vous. Hein.
Merci beaucoup. Merci.
Au revoir.
Au revoir.
Adabam est un exemple de publication de livres de qualité, pointue, destinée à ceux qui n'y auront pas accès sans ce genre d'édition. Nous allons en inviter d'autres comme Adabam. Donc c'est un dossier à suivre au fil de nos émissions. Nous aurons aussi d'autres éditeurs parce qu'au fur et à mesure, je me rends compte que je découvre de nouveaux éditeurs sartois. Voilà, ben merci à vous et bon courage. Et puis on se retrouve dans 15 jours pour une nouvelle émission. Donc comme je le disais, dossier à suivre.